Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Éthique. Tout de suite, une interview réalisée par Pascal Marcaggi.
Les Irlandais qui ont mis au point un capteur de stress et font gagner le moins stressé. La cosmétique qui se rend compte qu'une femme peut être belle après 20 ans. Des restaurants qui font payer ceux qui ne finissent pas leur assiette. Le développement durable a des visages multiples. Des tendances. Pour la quatrième année, mes courses pour la planète, l'Observatoire de la consommation responsable scrute et soupèse ces grandes tendances du développement durable. Elisabeth Laville, fondatrice de Graines de Changement, dont Mes courses pour la planète est l'une des initiatives.
On fait un petit exercice de style tous les ans qui consiste à se limiter à 21, qui est un chiffre un peu magique en termes de développement durable, et aussi pour pas en avoir qui s'accumulent au fil du temps. Donc certaines reviennent d'une année sur l'autre quand on considère qu'elles sont durablement marquantes. D'autres sont absentes un an ou deux, puis reviennent en année 3 ou 4. Mais globalement, on en a 21 qui sont organisées sur, on va dire, 5 macro-tendances. Les premières qui sont assez classiques, qui sont réduire, réutiliser, recycler, hein, qui est le mantra de la conception écologique. Et les deux autres qui sont repenser et relier, qui sont, de notre point de vue, des axes structurants aussi pour réinventer les produits, les services qui font notre quotidien.
Des tendances qui ne sont plus seulement le propre des pays développés, et cela est une tendance en soi.
Oui, c'est plutôt pays développés, mais il y a pas mal de tendances qu'on voit émerger aussi dans les pays dits en développement, vu que, notamment sur les sujets de consommation, ils sont non seulement pas en retard sur nous, mais parfois en avance, notamment sur les attentes de produits plus responsables.
Première grande tendance observée, nous sommes de plus en plus connectés, et cela suscite de nombreuses initiatives en matière de développement durable, les meilleures comme les pires.
Oui, c'est une tendance qu'on a appelée, c'est même la première qu'on a identifiée dans l'étude, c'est qu'on a appelée la vie augmentée, qui pourrait s'appeler la vie connectée. Ça, c'est factuel, c'est-à-dire qu'en 2009, on avait quelque chose comme 2,5 milliards de moyens de connexion dans le monde, dont la plupart sont des objets personnels, le smartphone, le téléphone portable, ordinateur, etc. Et on va passer de 2,5 milliards en 2009 à 30 milliards en 2020. Donc ça, c'est un fait, et du coup, cette tendance-là, elle porte potentiellement le meilleur et le pire. Si elle s'avère très utile, elle porte le meilleur, et d'une certaine façon, le surcroît de bien-être, de qualité de vie, etc., que ça amène, peut justifier les impacts environnementaux notamment supérieurs qu'elle nécessite, puisque des objets connectés, ça dit des flux de données en continu, la consommation d'énergie en continu, etc. Et des enjeux éthiques aussi sur plus de données personnelles qui circulent, comment les entreprises vont les utiliser. Donc s'il y a plus d'utilité sociale, plus de qualité de vie, plus de santé, plus de bien-être, ça vaut le coup. S'il y a pas plus de qualité de vie, plus de santé, plus de bien-être, ça vaut pas forcément le coup d'avoir plus d'objets, plus de déchets électroniques, plus d'impacts environnementaux, plus de consommation d'énergie. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu le meilleur et le pire. Donc dans le pire, pour commencer par ça, vous avez une application qui a été développée cette année avec un capteur d'humidité dans les couches qui signale aux parents sur leur smartphone à quel moment il faut changer la couche de leur enfant. Où là, on voit bien que ça remplace juste quelque chose qui est de l'attention à l'enfant, pour lequel ça ne paraît pas utile d'avoir une béquille électronique. C'est un poil gadget, en fait, comme objet. Vous avez la même chose sur la boîte d'œufs électronique qui vous prévient quand les œufs sont en train de ne plus être bons à manger. Ce dont on peut dire, d'un côté, ça prévient le gaspillage alimentaire, et de l'autre côté, il suffit quand même d'aller à les dates limites de consommation. Si on fait un peu attention, a priori, on n'a pas besoin de ça. À l'inverse, vous avez plus en plus d'applications, par exemple pour les gens qui ont pris un peu trop de soleil, qui ont des grains de beauté, des applications qui vous permettent de surveiller l'évolution des grains de beauté et vous signaler quand il faut aller chez le médecin, notamment dans le domaine qu'on appelle e-santé. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. Vous avez une boîte qui s'appelle iHealth, donc e-santé littéralement, qui propose plein d'applications. Si vous êtes diabétique, si vous avez des problèmes de poids, si vous avez des problèmes de tension artérielle, etc., pour à la fois vous aider à faire de la prévention et puis en même temps vous signaler à quel moment il faut aller plutôt chez le médecin. Voilà. Donc en fait, on a le meilleur et le pire. Dans le pire, vous avez aussi, qu'on avait identifié, c'est un scooter électrique. Alors certes, il est électrique intelligent, qui est connecté sur votre smartphone et qui avertit automatiquement vos proches en cas d'accident. Bon, c'est le truc qui va pas servir énormément, souhaitons-le en tout cas. Par contre, ça justifie un prix beaucoup plus élevé. Voilà, donc il y a vraiment le meilleur et le pire. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'encourager les entreprises à utiliser ça de la manière la plus intelligente et responsable possible, sachant que dans la responsabilité, il y a aussi la question des données personnelles, puisque on voit bien sur les applications de e-santé, toutes ces applications qui ont pour objectif de faire plus de prévention, de développer la santé active, où chacun prend sa santé en main, et qui, en théorie, coûtent moins cher à la sécurité sociale, elles ont aussi pour effet, et elles reposent sur le fait qu'on a beaucoup de données personnelles qui du coup se mettent à circuler, qui sont stockés quelque part entre le cloud, votre téléphone portable, etc. On ne sait pas trop où d'ailleurs. On ne sait pas trop qui pourrait y avoir accès. Et ce marché-là des données personnelles, à nouveau, il était évalué à 50 milliards de dollars en 2008 et il est aujourd'hui évalué au double, à peu près 100 milliards de dollars en 2012, juste pour la France. Donc, c'est un marché aussi, ça a de la valeur, hein, de savoir que vous achetez plutôt tel ou tel produit, que vous préférez telle ou telle marque et que vous avez tel ou tel problème de santé, par exemple, parce qu'on peut cibler les promotions ou les offres de médicaments et d'autres choses qu'on va vous faire. Mais évidemment, il y a d'énormes enjeux éthiques autour de ces questions-là. Chose qu'on a signalée dans l'étude en rapportant une initiative, un site internet qui s'appelle Please Rob Me, donc littéralement, s'il vous plaît, cambriolez-moi, qui montre comment, en rassemblant des données personnelles qui sont déjà accessibles en ligne, permet de dire quels sont les logements vacants et qu'on peut aller cambrioler, puisqu'on sait que les gens sont en vacances. Exemple, si vous mettez sur votre page Facebook, LinkedIn ou je ne sais quoi, je suis en vacances, et vous mettez des photos de vous, j'en sais rien, à l'île Maurice ou que sais-je, et bien du coup, les gens, par définition, on sait que vous n'êtes pas chez vous. Par ailleurs, l'endroit où vous habitez, c'est probablement accessible sur Page Jaune. Et ce site est un site qui est là pour sensibiliser les entreprises et les internautes au fait qu'il va y avoir un enjeu avec ces données personnelles qui circulent.
Catastrophiste ou pas très sexy, le développement durable avait cette connotation. Robe de bure, coup de règle sur les doigts. Aujourd'hui émerge, surtout dans les pays anglo-saxons, la tendance happiner. Le développement durable peut être happy.
Ben, c'est un peu en phase avec ce qu'on voit par ailleurs, dans le domaine, j'ai envie de dire, du développement personnel, où on voit l'essor de la psychologie positive, qui consiste un peu à faire, comme on disait tout à l'heure, à faire le choix de l'optimisme, parce qu'il est meilleur pour la santé, entre guillemets, et notamment la santé mentale. Là, c'est un peu la même chose, donc tout ce qui est psychologie positive, etc., ça va dans ce sens-là, faire le choix de voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Et c'est un choix, c'est-à-dire, c'est pas une fatalité, c'est un choix qu'on peut cultiver, etc. Et effectivement, avec la crise, émerge cette idée que la rhétorique traditionnelle du développement durable et de la consommation responsable, elle est plutôt négative et plutôt catastrophiste. Elle est plutôt en mode, il suffit de regarder les médias, le ciel va nous tomber sur la tête. En gros, attention, regardez les catastrophes climatiques. Et si vous regardez les journaux, il n'y a pas très longtemps, avec les événements climatiques un peu extrêmes qu'on a eu en Angleterre, en Bretagne et autres, on a bien vu qu'on disait ça va nous arriver de plus en plus souvent, etc. Le problème, c'est que cette rhétorique-là, elle fait plus beaucoup recette, a fortiori en temps de crise où, de toute façon, les lendemains semblent déjà incertains à plein d'égards. Donc, ce qu'on voit émerger, notamment dans les pays anglo-saxons, c'est cette espèce de débat entre les gens qui travaillent sur ces sujets. Certains disant « Non, mais il faut continuer à faire ça. Il faut que les gens voient en face les risques qui nous arrivent sur la pollution environnementale, les problèmes de santé que ça va générer, les problèmes de climat, les catastrophes climatiques, le coût économique, etc. Tout ça. » Et ceux qui disent « Non, mais là, on est dans une phase où on s'aperçoit que la rhétorique, entre guillemets, catastrophiste ou alarmiste, elle fait pas changer les gens, elle fait pas changer les comportements, elle fait pas prendre moins sa voiture, elle fait pas changer son comportement de consommation, etc. Et donc certains commençant à dire, il faut qu'on trouve autre chose, de l'ordre du positif, un peu dans la lignée de ce qu'on voit par ailleurs hein, dans la société. Si vous regardez le succès du clip de Pharrell Williams, Happy, là, 24 Hours of Happy, donc une journée entière joyeuse, littéralement. Voilà, donc ça, c'est en train de se développer. Et les entreprises échappent pas à ça. On voit sur les stratégies de développement durable à proprement parler, des entreprises comme Kingfisher, qui est la maison mère de Castorama, British Telecom ou Coca-Cola, qui se regroupent pour dire, nous, on veut des démarches qui visent pas uniquement à avoir un impact neutre, parce qu'on, par exemple, sur le climat, on parlait beaucoup de neutralité climatique. Hein. Et là, on voit ces entreprises qui disent « Non, nous, on veut s'engager à avoir un bilan positif net pour la planète. » Donc, autour de cette idée de net positive, net good, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire « C'est possible à la fois de respecter les limites que la planète nous impose en termes d'émissions de CO2, de pollution, etc. et en même temps d'améliorer la qualité de vie de chacun et de donner envie à tout le monde de participer à une société plus sobre, ce qui, a priori, n'est pas hyper sexy, ne fait pas hyper envie. » Et notamment quand on parle de consommation, où clairement, il y a tout de suite l'idée que si vous proposez de restreindre la consommation, vous réduisez le confort personnel, la qualité de vie, etc. Et donc, en fait, personne n'en a envie. Unilever, notamment, est en train de travailler là-dessus avec un site web qu'ils ont lancé qui s'appelle Project Sunlight, dont l'idée est vraiment de montrer qu'il n'y a jamais eu de moment meilleur que celui qu'on vit en ce moment pour créer un monde meilleur et d'être vraiment dans cette façon de cultiver le positif au sujet des initiatives qui sont lancées par leurs clients, par la société civile, lancées par les entreprises, etc.
Parmi les tendances positives, Yes We Care, cela se fait de prendre soin de la société dans laquelle on vit. Kering, par exemple, une entreprise bretonne, a été certifiée, appelle à plus de bienveillance au travail. La transparence, par ailleurs, se fait jour. Blédina, par exemple, propose de venir rendre visite à ses agriculteurs. Quant au fait de ne plus avoir 20 ans, ce sera le quart de l'humanité en 2030. Elle en aura plutôt 60. Et Clarins se lance dans une filière filières d'excellence en la matière. Au diable, les stéréotypes orthonormés de certaines couvertures de magazines. 2013 a été l'année de l'anti-gaspillage alimentaire et là, la tendance est nettement le passage à l'action.
Oui, cette question du gaspillage alimentaire, je pense qu'on a passé la phase de sensibilisation. Ça fait 2 ou 3 ans que ça monte, il y a eu un engagement de l'Europe, puis un engagement de la France qui est aligné sur celui de l'Europe, c'est-à-dire qui vise à diviser par 2 le gaspillage alimentaire à horizon 2020. On a les chiffres, on sait qu'en France, on jette en gros quelque chose comme 20 kilos d'aliments par an, par foyer, dont 7 kilos de produits qui sont pas entamés, pas périmés, donc quand même une bonne marge de progrès. On a vu cette année, en 2013, le gouvernement lancer sa campagne « Manger, c'est bien, jeter, ça craint », donc sur ce sujet du gaspillage alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des acteurs qui passent à l'action. Donc il y a des actions, par exemple, du marché de Rungis qui a mis en place un partenariat avec les épiceries solidaires pour que les grossistes de Rungis puissent donner leurs surplus, leurs invendus à l'association. On a effectivement un certain nombre de restaurants, alors pas mal de restaurants japonais, bizarrement. Un restaurant à Sydney dont on avait parlé l'an dernier, un restaurant à Tokyo qui ont mis en place des systèmes où soit les clients qui finissent leur assiette payent moins cher, soit ceux qui la finissent pas payent plus cher. Et effectivement, après là, celui de Tokyo, ils reversent cette espèce de taxe à la communauté de pêcheurs qui fournit le poisson, puisqu'on jette le poisson in fine. Mais on a un restaurant japonais aussi qui s'appelle Fujiyama à Louviers dans l'Eure, qui propose la même chose, des formules à volonté, mais ajoute 5 euros à l'addition finale des clients qui n'ont pas fini leur assiette. Donc on a vraiment ce système-là qui se développe, qui est intéressant. On commence à voir des initiatives, on avait parlé l'an dernier des restaurants Cogent qui avaient mis en place une camionnette avec un salarié dédié qui fait le tour des restaurants à leur fermeture vers 14-15 heures parce qu'ils sont fermés le soir, qui récupère la nourriture et qui la redistribue aux banques alimentaires. Donc en prenant à sa charge en fait la chaîne du froid, ce qui est le problème principal qui en général empêche les acteurs de la restauration de faire ça. Cette année, on a vu le centre hospitalier du Mans faire la même chose, mettre en place un système où ils redistribuent les repas en surplus à l'hôpital. Or là, pareil, ils en jettent pas mal. Je crois que ça fait 7000 repas par an. On commence à voir arriver sur ce sujet-là des solutions. On a fini la phase de sensibilisation.
Le développement durable, de plus en plus synonyme d'innovation, de réinventer la société plutôt que de coups de règle sur les doigts, selon la formule de Churchill. Incroyablement visionnaire, décidément, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. Cela est, semble-t-il, la tendance de fond aujourd'hui du développement durable. Mais pour en savoir plus, et plus précisément, les tendances durables 2014 de la consommation responsable sont en version résumée sur le site mescoursespourlaplanete.com. La version intégrale, elle, est à commander auprès de mescoursespourlaplanete.com ou de Graines de Changement.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.